Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bien, bonsoir, on est de retour au Ground Floor Café ce soir, à Ground Control. Dehors il pleut, à l'intérieur il fait beau. On est à nouveau libre et curieux, et ce soir on va d'abord vous parler de quelques livres, 6 pour être précis, et ensuite on accueille Eric Arlix qui va nous parler et nous lire quelques extraits de son tout nouveau livre, Terreur saison 1, un titre mystérieux qui vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure.
Ground Control, libre et curieux.
Ça va là, c'est assez fort ? C'est assez fort là ou pas ?
Alors, donc le premier livre dont je vais vous parler ce soir, c'est un livre de 2012. Donc vous savez que dans l'émission Ground Floor Café comme au Concept Store, la librairie Caribe donc, propose un assortiment de livres qui ne sont pas tous, loin de là, des nouveautés du moment, mais des livres qui sont libres, curieux et importants. Donc le premier de ces livres, c'est « Ma dernière création est un piège à taupe ». Sous-titré « Mikhaïl Kalachnikov, sa vie, son œuvre » d'Oliver Roé. C'est un livre qui est sorti en 2012 aux éditions Inculte, qui est désormais disponible en poche chez Babel, la collection poche d'Actes Sud. C'est une adaptation d'une pièce radiophonique, la pièce radiophonique AK-47, réalisée pour France Culture. C'est un livre qui est tout petit en apparence et qui est assez gigantesque parce que, croisant savamment la vie et l'œuvre réellement de Mikhaïl Kalachnikov, donc un ingénieur soviétique, un inventeur qui a inventé pas mal de choses, dont un piège à taupe, mais qui est surtout connu effectivement pour son fusil automatique AK-47 qui porte son nom, la Kalachnikov. Et l'autre fil qu'Oliver Roé a développé, c'est justement la symbolique, l'aspect économique, l'aspect politique de la présence de la Kalachnikov dans la guerre froide, dans les conflits subversifs et aujourd'hui dans à peu près toutes les guerres civiles de la planète. Associé évidemment aux enfants soldats en Afrique. Et autour de ça, donc, qui est un sujet à la fois assez glauque et éminemment sérieux, utilisant le personnage qui a un côté professeur Nimbus et en même temps extrêmement consciencieux, extrêmement obsessionnel, extrêmement inventif de ce savant inventeur, ingénieur russe donc, et soviétique, fervent communiste, qui a droit à plusieurs musées désormais, un dans sa ville natale dans l'Oural, et puis un au musée d'artillerie à Leningrad, pardon, à Pétersbourg. Et donc de ce petit livre, Oliver Roé a su faire un ouvrage réellement politique, puissamment symbolique, et qui est extrêmement agréable à lire, et qui fait sourire de façon complice sur des sujets qui normalement ne prêtent pas à sourire, ce qui est une vertu de la littérature. Voilà, donc c'est ma dernière création, est un piège à taupe de Oliver Roé.
Grand contrôle,
grand contrôle.
Libre, libre,
libre et curieux.
Alors le deuxième livre dont je vais vous parler renvoie en fait à la toute première émission qu'on a faite ici, où on a parlé de dérive et de psychogéographie. C'est un des livres les plus emblématiques de la psychogéographie contemporaine, donc de la façon de réinterpréter les lieux, de vivre en nomade urbain et de chercher dans les lieux les traces d'histoire, les traces d'anthropologie, les traces du quotidien, les traces de politique qui y apparaissent malgré eux. Et donc Ian Sinclair, un Britannique, a écrit en 1999, a écrit London Orbital, qui est le récit très détaillé, très documenté, d'une immense balade à pied en plusieurs étapes, en plusieurs jours, étalée sur des mois et des mois, de Ian Sinclair avec quelques-uns de ses amis, le long de la M25, qui est l'autoroute circulaire qui encercle le Grand Londres, à environ 25 km du centre de Londres. Et tout au long de ce périple, Ian Sinclair, en fait, parce qu'il rencontre Et ça peut être rencontrer des canaux, des rivières, des hôpitaux psychiatriques désaffectés, très important les hôpitaux psychiatriques désaffectés chez Yann Sinclair, des bâtiments qui ont été des abbayes et puis qui sont devenus des sièges de compagnies pharmaceutiques, toutes sortes de choses, des aéroports bien entendu, des parkings, des restaurants, des pubs défraîchis, des hôtels de type Formule 1. Il y a toutes sortes de choses le long de cette M25. Et à chaque fois, Yann Sinclair, en fait, tend les ressorts en faisant confiance au hasard. Il n'y a pas de planification. Tiens, on va aller voir ça parce que ça a l'air intéressant. On tombe sur ce sur quoi on tombe. Et de ce hasard de la rencontre, au long du chemin, naît un paysage urbain, un paysage nomade puissamment historique et qui dit en creux et en plein toute l'évolution sociale et politique de l'Angleterre avant les années Thatcher et depuis les années Thatcher. Donc c'est un livre vraiment impressionnant qui a été publié, en fait, pardon, le périple datait de 98-99, mais le livre a été publié en 2006 en Angleterre et traduit en 2010 par Maxime Béret chez Inculte et réédité en Babel chez Actes Sud en 2016. Donc c'est un livre bon, qui est, il faut être honnête, un peu touffu, un peu épais, mais d'une richesse proprement incroyable. Et vraiment, je vous encourage lui aussi à le lire.
Grand contrôle.
Grand contrôle.
Libre, libre.
Libre et curieux.
Alors, avec le troisième livre, on va rester dans l'urbanisme, si on peut dire, mais un urbanisme assez farceur, où là aussi, on est dans le nomadisme, puisque c'est un thème qui est cher à Grand Contrôle, un livre qui s'appelle « Les États et Empires du lotissement Grand Siècle » de Fanny Taillandier, publié au PUF, dans la collection Perspectives Critiques, et qui n'est pas un essai, qui est un roman, un texte un peu hybride. Et alors, il y a bien entendu, dès le titre, cette allusion à Cyrano de Bergerac, aux États et Empires de la Lune. Fanny Taillandier s'est plongée, elle a utilisé en fait un moyen détourné. Elle a inventé une analyse futuriste d'un groupe de nomades, d'une société post-apocalyptique qui n'est pas trop déterminée, ce n'est pas très important, mais qui donc hante des choses qui sont tombées en ruine en région parisienne, et notamment un lotissement, le lotissement Grand Siècle, qui est le premier lotissement qui a été fait en France, près de Versailles, à la fin des années 50, sur le modèle du lotissement américain. Donc entièrement voué à la voiture, organisé pour une vie bien particulière, pour une vie pavillonnaire, ce qui n'existait pas jusque-là. Et donc ça, c'est une toile de fond, c'est un contexte urbanistique et politique. Et pour l'aborder, Fanny Taillandier a construit un ensemble de fragments, de bribes, d'anecdotes, d'intrigues qui sont presque policières. Il y a une histoire de meurtre dans le voisinage, donc qui peut paraître très surprenante et qui sert pourtant de véritable fil conducteur pour aller voir ce qu'il y a sous la pensée du lotissement, d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle a fait, quels ont été ses effets et éventuellement où elle mène, sans dire qu'elle mène nécessairement à la folie furieuse et à assassiner ses voisins, même si c'est un risque, on le sait, non négligeable. Les problèmes de haies et de tondeuses ont des beaux jours devant eux. Et donc, Les États et Empires du lotissement Grand Siècle, de Fanny Taillandier, au PUF, un livre qui est court, qui est dense et qui est drôle.
Ground Control, le direct.
Alors, quatrième livre, c'est un grand classique. Donc, tous les auditrices et tous les auditeurs l'ont vraisemblablement lu, mais malgré tout, on va tenter d'en reparler. C'est Vermilion Sands de James Graham Ballard, dans l'œuvre énorme de Ballard, qui, en début de carrière, était connu surtout des amateurs et des amatrices de science-fiction, mais qui ensuite, à partir de, notamment de ses biographies, de ses autobiographies racontant son enfance en Chine, a accédé à un public beaucoup plus large. Ce qui fait que parfois son œuvre antérieure reste moins bien connue. Vermilion Sands, c'est vraiment une œuvre centrale dans son œuvre. C'est des nouvelles. Hein. Alors, il y en a 9, 8, 10, ça dépend des éditions. C'est un livre qui a souvent été épuisé, souvent réédité. Elles ont été écrites entre 1956 et 1970 et pour la première fois assemblées en recueil en 1971. Bon, donc ça ne nous rajeunit pas. C'est à la fois un rappel historique, Vermilion Sands, qui jalonne le début de carrière de Ballard, ce qu'on appelle les quatre apocalypses, qui sont des textes de science-fiction magnifiquement écrits, mais relativement classiques par leur thématique. Et juste après la foire aux atrocités, 1969, donc qui emmène Ballard vers une exploration bien différente, plus radicale, plus sombre, qui débouchera quelques années plus tard sur la célèbre trilogie de béton, donc Crash, encore plus connue depuis qu'elle a été adaptée par David Cronenberg, L'île de béton, et puis IGH, Immeuble à grande hauteur, en 1975. Et les 200 pages de Vermilion Sands, donc, c'est un hommage, une exploration, une enquête, une façon d'approcher une ville, une cité balnéaire qui est hors du temps, qui est très futuriste par certains aspects, et en même temps, elle est comme arrêtée, elle est figée dans une sorte de célébration de l'art, des anciennes avant-gardes. C'est un refuge de peintres, de sculpteurs, de poètes, en douce fin de carrière, paisible. Il y a un côté langoureux, il y a un côté légèrement désespéré, qui contraste énormément avec les fins du monde sur lesquelles travaillait Ballard précédemment, et qui contraste énormément aussi avec les univers de béton et de métal glacé qui vont suivre. Et ça correspond aussi, chez Ballard, Vermilion Sands, c'est une gigantesque métaphore d'un moment de pause, en fait, historique et politique, entre la fin des années 60, où des choses ont peut-être été possibles, et puis une sorte de reprise en main économique et politique à partir de la fin des années 70 et des années 80, donc qu'il anticipait, et on peut dire qu'il ne s'est pas beaucoup trompé. Alors c'est un texte qui est là aussi, qui a l'ampleur des grands qui ont écrit début des années 70, comme John Brunner, Norman Spinrad, voire Ursula Le Guin, Les Dépossédés. C'est des textes éminemment politiques, très puissants, et pourtant qui baignent dans une espèce de douceur, d'ironie, d'humour. Il y a des choses très étonnantes qui se produisent dans cette ville, à propos d'art, à propos de à quoi ça sert exactement l'art, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça ne peut pas apporter, les contradictions qu'il peut y avoir entre les artistes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Vermilion Sands, c'est aussi un recueil qu'on peut lire, relire au fil des années et qui change. Alors, beaucoup de textes font ça, mais Vermilion Sands peut-être plus que d'autres, qui change en fait avec l'évolution de la lectrice ou du lecteur de façon parfois très spectaculaire, notamment parce que le regard de l'art que porte Vermilion Sands est très évolutif, très à facettes, assez complexe, sans se réfugier dans la glose, dans la théorisation, mais en restant dans l'immédiateté, dans le ressenti, et avec toujours un petit clin d'œil légèrement ironique, en fait, et mélancolique, qui irrigue en fait ce recueil très très beau.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Alors un cinquième texte complètement différent et lui relativement récent, c'est Zone de divergence de John Pfeffer, qui est paru très récemment, l'année dernière en fait, aux États-Unis et quasiment juste après en France chez Inculte. Alors je m'aperçois que j'ai choisi beaucoup de livres Inculte ce soir, c'est un pur hasard, hein. Il n'y a rien qui nous lie à cette belle maison. Zone de divergence, alors ça a été présenté, et je pense, c'est pas leur faire insulte que de dire de façon un peu abusive, comme le premier vrai livre de science-fiction d'anticipation de l'Amérique de Trump. C'est pas complètement vrai, c'est à la fois moins que ça et beaucoup plus que ça. Zone de divergence, c'est le constat, la narration par un universitaire qui a produit un texte à un moment donné qui a été étonnamment visionnaire. Un texte qui se voulait analytique, mais qui était aussi de la projection, de l'anticipation rationnelle, et qui s'aperçoit à sa grande horreur, au fil des mois et des années, que finalement tout ce qu'il a plus ou moins anticipé est en train de se réaliser, à savoir un monde qui se délite complètement par balkanisation, par indifférence et par avidité. Alors si ça vous rappelle quelque chose, c'est que ce contre quoi il s'agit bien entendu de se battre au quotidien, chez Ground Control comme ailleurs. Cet universitaire, et là, je vais vous donner un gros spoiler, sa confession, parce que c'est une confession, il a quand même très honte, parce qu'il a un peu peur d'avoir fait de la prophétie autoréalisatrice, d'avoir contribué, d'avoir donné des idées à des gens sur « tiens, c'est comme ça qu'il faudrait s'y prendre si on voulait ». Et donc sa confession, elle est très rusée, très habile, et en même temps, on s'en apercevra, il y a des parties intimes dans cette confession qui concernent aussi ses liens avec sa famille, avec ses enfants. Et il est assez fuyant, en fait, cet universitaire. Voilà. Et j'en dirai pas plus, parce que sinon, je vais être obligé de vous dire en quoi il ment, peut-être, dans ce qu'il raconte. En tout cas, c'est passionnant, parce que c'est complètement irrigué de politique contemporaine, d'histoire récente et d'histoire un peu plus ancienne, de géopolitique, de géographie, d'économie, avec beaucoup d'exactitude. John Pfeffer est vraiment quelqu'un qui... le reste du temps, quand il n'écrit pas des romans un peu étonnants comme celui-là, est lui-même un universitaire respecté qui écrit dans des revues extrêmement sérieuses. Donc, mais qui a su, dans ce roman, se dégager en fait, de la contrainte de l'essai et faire quelque chose de... Alors là, je ne vais pas dire amusant, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, quelque chose de très étonnant, qui fait à la fois réfléchir et qui, en même temps, souligne de façon parfois burlesque en fait, certains effets de réel d'aujourd'hui qui sont sinon proprement effrayants. Donc John Pfeffer, Zone de divergence chez Inculte, un grand livre.
Grand Contrôle, radio libre et curieuse.
Alors, le dernier livre pour aujourd'hui, il en faut parce que sinon, on va dire une émission Grundflor Café sans un seul livre de poésie, c'est pas possible. Et donc voilà un livre de poésie, c'est Soleil Gazoil de Sébastien Ménard qui est paru chez Publinet. Il y a 2 ans. Soleil Gazoil, c'est un texte assez étonnant qui recompose et qui transmute d'une manière complètement différente une somme de périples, de raids, de parcours menés par l'auteur, Sébastien Ménard, avec un certain nombre d'amis à géométrie variable, qui correspondait à des choses qui sont presque pulsionnelles. Il s'agissait de prendre la route avec des voitures d'occasion bricolées ou ce qu'on trouve, des locations pas chères, et de partir un peu n'importe où autour de la Méditerranée. Donc il y a une bonne partie du décor qui est les Balkans, il y a une bonne partie qui est le Liban, la Syrie, une partie qui est le Maghreb, et c'est une sorte donc de sur la route, hein, mais qui orbite autour de la Méditerranée, dans l'asphalte, dans le carburant, dans la poussière, dans la rencontre d'humanité en train de se perdre ou en train de souffrir, mais avec toujours ce côté très étonnant d'un sens du partage et de la fête, et pas de la fête dans des villas luxueuses à Marbella, hein, plutôt le contraire, la fête improvisée sur un coin de piste syrienne ou un coin de piste au Kosovo, où on fait des grillades dans les champs avec les gens qui sont là, on fait griller quelques tomates, quelques côtes d'agneau, si c'est la grosse fête, et on boit, on chante, on discute, en mélangeant un peu toutes les langues qu'on connaît. Donc il y a un côté très routard, oui, très Kerouac 40 ans plus tard, mais adapté à un contemporain complètement éclaté. Le pourtour de la Méditerranée, effectivement, ce n'est pas l'Amérique des années 50, hein, actuellement. Et là-dedans, il y a une espèce de ferveur en fait, que dégage en permanence la phrase en fait, de Sébastien Ménard, qui est une phrase souvent courte, donc c'est en vers libre, hein, c'est pas des alexandrins, mais c'est quelque chose qui mêle, et il y a un clin d'œil dedans, même si ça n'a rien à voir avec la production d'Eric Harlix qu'on écoutera tout à l'heure, mais on cite beaucoup de villes en fait, dans Soleil Gazoil. Des villes qui sont celles qu'on parcourt, celles dont on vient, celles où on voudrait aller, mais on n'ira peut-être pas. Et il y a une mise en scène en fait, de la Méditerranée d'une façon très, très proche du terrain, de la poussière et de la route. Et c'est donc un livre très étonnant que je vous encourage absolument à lire. Et donc, avant la pause musicale, je vous rappelle donc que ces 6 livres, comme 200 autres, sont tous disponibles au Concept Store de Grund Contrôle, bien entendu, et n'attendent que votre appétit de lecture, et sont également disponibles à la librairie Caraïbe, au 129 rue de Charenton, à 2 pas d'ici. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom. As he ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering spot.
storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Voilà, vous aurez reconnu Nick Cave, c'était un petit clin d'œil à notre émission d'il y a 15 jours. On était en compagnie de Nick Cave par la pensée et par sa biographie et par ses romans. C'était un beau moment. Et ce soir, on retrouve un autre invité, donc Eric Arlix.
Radio libre et curieuse.
Alors, Eric Arlix nous a déjà fait la gentillesse de venir nous parler... pas spécialement d'ailleurs de ses œuvres, mais plutôt d'un regard sur ce que peut être la littérature des friches et des marges, en compagnie de Frédéric Fioloff, de Xavier Boissel, lors de la toute première émission du Ground Floor Café. Il revient ce soir pour nous parler de son tout nouveau livre et pour nous en faire entendre la musique. Le phrasé assez particulier, c'est « Terreur saison 1 ».
Dans toute l'Europe, c'est fou, c'est complètement dingo. De Zoutland à Nevers et d'Alfortville à Possenhofen, des individus dans toute l'Europe. Dans une Europe inféodée au tout marchand, dans une Europe presque obsolète. De Francfort à Castres et de Aspen à Saragosse, des individus complètement dingos, c'est fou. Dans une Europe fatiguée, déprimée, complètement folle, en plein doute. De Lannion à Stockholm et de Madrid à Mulhouse. Dans une Europe ravagée par des problèmes climatiques insolubles et par des plans de restructuration qui ne marchent jamais. C'est complètement dingo, c'est fou. Des individus. Dans une Europe tuméfiée, ravagée par des doutes et par des problèmes insolubles. Des individus déprimés, d'Uppsala à Timișoara et de Cork à Dublin, de Palerme à Genève et de Maisons-Alfort à Foix. C'est fou, c'est complètement dingo, vous imaginez ? De Syracuse à Cracovie et de Kilkenny à Mostar. Des individus, des décideurs, des Européens tuméfiés par la vie, en plein doute, se levèrent de leur canapé. Ils étaient vraiment bien, là. Dans une Europe pas bien du tout, dans une Europe tuméfiée par son histoire, dans une Europe inféodée au tout marchand. Des individus, de Paris à Lausanne et de Dijon à Athènes, en plein doute, tuméfiés par une Europe complètement dingo. Des individus et des décideurs.
Ground Control, casse les codes, pas les couilles.
Alors, Terreur saison 1, c'est un texte vraiment étonnant, bon, que j'ai adoré, mais comme j'avais déjà adoré Golden Hello, le texte précédent, il y a, et j'y reviendrai, hein, une musique bien particulière, il y a une façon de construire la poétique en fait, de cette terreur qui est vraiment quelque chose. Mais peut-être, alors je vais essayer de décrire un petit peu ce dont il s'agit, mais sans spoiler, parce qu'il y a une construction de ce petit volume donc paru tout récemment aux Presses du Réel dans la collection. Alors, je ne sais jamais s'il faut dire Al Dante ou
Al Dante.
Al Dante, ouais. Voilà. Donc.
Al comme Al Capone et Dante.
Et Dante comme celui poète. De la Divine Comédie.
Voilà.
D'accord. Et donc, dans cette collection Al Dante des Presses du Réel, Terreur saison 1 a une construction où il commence par y avoir un certain nombre de chapitres où des phénomènes se passent, des phénomènes qui impliquent un certain nombre d'individus, comme le disait Eric Herlix dans cette introduction, des individus qui se mettent à faire des choses. Bizarre, contre nature économique et politique du présent, des choses inattendues. Alors on songe peut-être à, par exemple, des choses qu'on a pu voir évoquées par Nathalie Perbonne dans Rêve Général, quand les gens se mettent à ne plus vouloir contribuer à la machine économique, ou chez Jérôme Leroy, quand les gens entrent dans des processus d'effacement et de disparition. Mais c'est bien autre chose dont il s'agit dans Terreur saison 1, parce que ces phénomènes sont divers. Ils sont effectivement, et c'est comme un slogan qui revient, il y a beaucoup de questions de musique et de choses qui reviennent en fait dans Terreur saison 1. Ça concerne toute l'Europe, ça concerne des dizaines et des dizaines de villes en Europe de façon simultanée. Donc complot, conspiration, intoxication de masse, et les éventuelles vérités de ce qui se passe apparaissent peu à peu dans un montage qui est presque antéchronologique, c'est-à-dire qu'on remonte en fait sur les causes peut-être possibles de ce phénomène peu à peu. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure, la façon dont c'est écrit, vous en avez déjà entendu un extrait, on va en écouter un plus ample tout à l'heure, il y a une forme d'humour très particulière qui joue sur le langage, qui joue sur la scansion, qui joue sur la répétition, qui joue sur le fait de prendre des formules à rebousse-poil et de les déformer pour les mettre dans un autre contexte, qui donne quelque chose d'assez, ma foi, jouissif sur un sujet qui ne l'est pas nécessairement, qui était déjà ce qu'on avait ressenti dans Golden Hello, et notamment dans beaucoup de pièces à l'intérieur de Golden Hello, mais l'une qui est peut-être ma préférée, je la mentionne quand même ce soir à nouveau, parce qu'à chaque fois que je ne peux pas m'en empêcher de la mentionner, c'est une supérette qui, en quelques phrases, traite du monde à travers... le comportement des clients d'une supérette en fonction de leur niveau de stress quotidien. Quelque chose qui est assez exceptionnel. Et on va retrouver une forme de cette musique, je pense, différemment, mais en écho dans Terreur saison 1. Et donc, Eric Herlix, j'aimerais bien savoir comment ce projet... Voilà, c'est pas toujours facile hein, comme question, mais un peu la genèse de ce projet et comment il s'articule notamment par rapport à Golden Hello.
Alors, c'est des visées complètement différentes, mais c'est ce que j'essaye de faire depuis le début. Chacun de mes livres a une visée, une forme différente. Donc, je me pose certain nombre de questions avant de commencer des livres. Et les questions que je me suis posées avec Golden Hello, ce n'est pas du tout les mêmes qu'avec Terreur. Terreur, j'ai essayé de faire un roman, ce que je n'avais jamais fait. Alors, un roman à ma sauce à moi, donc du coup, ça donne une série découpée en épisodes qui ne sont pas chronologiques. Et tout le cadre structurel de l'histoire, ce qu'on nous livre généralement de manière assez rapide dans un roman, là, c'est distillé à travers une ou deux phrases par chapitre. Donc, du coup, on a pas le contexte général. Voilà, on n'a que les actions. Et les actions, effectivement, il y a 22 chapitres, je crois, de quelques pages. Et chaque chapitre concerne une action précise que se mettent à faire des individus à un moment donné. Alors, c'est soit des individus, soit des décideurs. C'est comme ça que je décris tous les Européens. On est soit un individu, soit un décideur.
Avec une certaine gradation quand même dans les décideurs. Il y a les faux décideurs, il y a ceux qui pensent qu'ils sont décideurs mais qui ne le sont
oui,
pas.
Bah après, oui, après, il y a bien sûr des degrés, mais sinon il y a deux grandes familles. Quoi. Et ceux qui pensent décider et ceux qui décident vraiment. Quoi. Et donc voilà, le projet initial c'était ça, c'était de voir comment... pour une cause X qu'on découvre petit à petit. Bon, il n'y a pas à spoilier ou pas sur ça. En l'occurrence, c'est qu'il y a une nouvelle génération de traitements antidépresseurs qui est arrivée en Europe. Donc, il y a des nouvelles molécules. Et forcément, il y a des ratés. Donc voilà, il y a des populations pour qui ça ne se passe pas comme prévu pendant quelques heures ou quelques jours. Voilà. Donc après, je joue avec ça, évidemment, pour faire une photographie, comme dans tous mes livres, de ce qui peut se passer ou ce que je crois en déceler. Mais en tout cas, la structure, voilà, c'est celle-ci. C'est une série. Il y a un fait principal, cette nouvelle génération de molécules. Et il y a des ratés. Voilà. Et qu'est-ce que ces ratés donnent ? Qu'est-ce que ça génère comme imaginaire ? Alors, ce n'est pas de l'ordre de l'utopie. Ce n'est pas, ah oui, tout d'un coup, on pourrait se mettre à faire ça. Non, c'est des gens qui changent juste de point de vue. Voilà. Un matin, on pense qu'avoir une Porsche 911 carrière à 4 noires, c'est forcément indispensable à la réalisation de sa vie. Et puis le lendemain, on la donne. Parce qu'en fait, on s'était trompé, quoi. Mais au bout de 3 jours, on se dit, bah non, oui, il faut que je récupère ma Porsche. Et dans tous les épisodes, c'est ça. Ça commence, il y a une montée, les gens se mettent à faire n'importe quoi. Et puis, à la fin de l'épisode, ils retrouvent leur état normal. Ils reviennent à leur vie. Donc voilà, après, tu parlais de la genèse de ce projet. C'est un de mes livres sur lesquels j'ai le plus lutté. Parce qu'au départ, c'était beaucoup plus gros. Ça jouait sur des registres de langue différents. Et ça, les éditeurs, ils n'aiment pas trop. Donc du coup, j'ai traîné ce projet pendant longtemps. Et puis après, j'ai décidé de le remonter autrement. J'ai gardé qu'un seul registre de langue. Et puis voilà, là, c'était un autre projet, mais ça me convenait aussi. Quant à Golden Halo, qui est un texte qui est fractionné en 14 petits textes, là, les visées étaient totalement différentes. Là, c'était... Je me suis posé des questions très, très ambitieuses comme comment faire un livre sur l'esprit mondial aujourd'hui, une photographie comme ça mondiale de tout. Et puis, je me suis dit, finalement, le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire des tout petits focus en une dizaine de pages à chaque fois, des tout petits focus sur des sujets précis. Donc voilà, c'était une autre visée, c'était une autre langue aussi, même si dans les deux, effectivement, ma manière de lire ces textes est très musicale. Et voilà, il y a une écriture qui est un peu la même, même si c'est quand même assez différent. Donc voilà, il y a des ponts.
Moi, je dois reconnaître, alors peut-être que j'ai été influencé, effectivement, parce que j'ai assisté à une partie en fait des lectures musicales de Golden Halo, donc accompagné enfin avec de l'improvisation guitare et du synthétiseur et des claviers, et puis avec ta diction qui s'appuie sur ce socle là. Et du coup, c'est vrai que bien que n'ayant évidemment jamais entendu Terreur saison 1 dans ces conditions là, on retrouve ou on croit retrouver en tout cas une métrique sous-jacente, quelque chose, une scansion. Et il y a vraiment
c'est comme ça que j'écris, mais je ne lis pas tous mes livres. Il y a des livres où la langue que je visais ne se prête pas à la diction, à l'oralité, et du coup, ces livres, je ne les lis jamais. Et puis d'autres qui sont vraiment construits comme ça, et du coup, le fait de les porter sur scène, même avant qu'ils paraissent en livre, d'ailleurs, ce qui était le cas pour Golden Halo, là, c'est vraiment nécessaire, ça rentre dans le cadre du projet. D'autres projets, c'est un livre, il est destiné à circuler comme une marchandise, et moi, je le porte pas, je le représente pas, quoi. Voilà, ça dépend des projets.
Il y a une chose moi, qui m'a frappé, en tout cas dans la forme qu'a pris ton écriture sur Terreur saison 1, de façon voilà, très, très compactée, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de rythmique de basse en fait, qui revient, qui est dans la façon d'utiliser assez savamment et assez vicieusement parfois les répétitions et les répétitions en chassement. Des choses dont j'ai le souvenir... qui se trouvait chez, il y a longtemps chez quelqu'un avec qui d'ailleurs tu as écrit, qui est Jean-Charles Masserat, dans un livre qui s'appelait United Problem of Coût de la main d'œuvre, où il y avait cette façon à l'intérieur d'une expression journalistique d'aller enchasser en fait une autre expression, et puis peu à peu de laisser la phrase gonfler. Et là, en revanche, tu l'utilises une forme qui n'est pas exactement la même, mais qui te permet de rythmer en fait le truc. Et bon, tu as mentionné les Porsche Carrera 4 noires, qui sont un de ces éléments. Là, je les ai pas retenus, mais un certain nombre de bureaux de luxe, un certain nombre de machines à café, des choses qui sont aussi bien des choses très cheap que des choses extrêmement luxueuses, et qui viennent comme des marqueurs, qui viennent se répéter en fait.
Avec les adjectifs qui changent, qui sont... Voilà. Tu parlais de Jean-Charles. Bon, on a des sujets qui nous intéressent tous les deux. C'est pour ça qu'on a écrit un livre ensemble, parce que c'est... Lui, il appelle ça la langue de l'ennemi. Moi, j'appelle ça juste les neuf langues, comme, tel que le définissait Orwell, mais c'est cette idée que, de toute façon, avec la langue du libéralisme, on perd l'imaginaire. À force de matraquer des concepts, des formules, on perd des mots, on perd les concepts et donc on perd de l'imaginaire. Dans une autre proportion que le libéralisme, c'est ce que faisaient les nazis.
On se souvient de Klemperer, justement.
Voilà, le livre de Klemperer. Et du coup, là, dans Terreur, moi, j'avais ça aussi en tête. C'est-à-dire qu'une formule, à un moment donné, comme, je ne sais pas, une chaîne d'information continue, voilà, c'est quelque chose qui existe. Mais quand on le met sans cesse en parallèle avec d'autres éléments, eh ben, tout ça, on peut en faire quelque chose. Et on peut voir un peu ce que ça génère ou ce que ça ne génère pas du tout comme imaginaire. Donc là, voilà, dans Terreur, il y a beaucoup de textes qui sont construits sur ce principe-là.
Je crois qu'on va l'entendre dans quelques instants. Et moi, c'est une de ces choses qui m'a frappé, c'est la façon dont tu assembles, sans qu'on en voit les coutures, en fait, dans ces différents épisodes de la saison 1, différents registres de vocabulaire qui sont tous marqués au fond au sceau effectivement de la novlangue libérale, qu'ils soient dans le registre très sérieux, très économique, très analytique, qu'ils soient dans le registre au contraire du cool, mais du cool marchand ou marchandisable, ou qu'ils soient dans le registre de l'abandon, du repli, de l'exclusion, mais également réintégrés à la façon des chaînes d'information continue, etc. Et il y a cette façon dont ce langage devient authentiquement terrifiant et justifie totalement le titre de la série, parce que il y a un aspect d'un rouleau compresseur qui prend plusieurs visages, y compris des visages très... J'aime beaucoup une expression qui rythme Terreur saison 1, c'est « ils sont vraiment bien là ». Et ça a un côté, à la cinquième ou sixième fois qu'on le lit, ça commence à être vraiment atroce et à faire vraiment peur, quoi. Ils sont vraiment bien là. Ils sont en train de péter les plombs, de faire un truc qui est à la fois anti-système et complètement, on l'a dit, qui a quand même des raisons un peu chimiques. Donc c'est très bizarre.
Et puis, ils ne font pas que des trucs anti-système.
Non, pas du tout.
Des fois, ils vont juste à la plage en hiver, où ils achètent, il leur faut une histoire de l'art, absolument. Donc tout le monde se précipite dans les librairies pour acheter des histoires de l'art.
Oui, les 350 000 gombriches écoulées en Europe en quelques jours, ça impressionne effectivement, surtout un libraire. Et il y a un mot, et après je pense qu'on va écouter un extrait de Terreur saison 1, il y a un mot qui m'a vraiment frappé, parce que c'est un mot qu'on utilise relativement rarement, et qui prend une étrange beauté dans Terreur saison 1, c'est le mot « tuméfié », qui est peut-être l'un des mots les plus utilisés pour rythmer. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur « tuméfié » ?
Je peux rien dire sur un mot comme ça, des fois il y a des évidences, quoi. J'ai pas cherché le mot, ça n'a pas été l'occasion d'un travail, je veux dire. C'est arrivé comme ça, je l'ai utilisé. Après, justement, si tu l'as remarqué, c'est justement parce qu'il est adapté, quoi. C'est, là, dans l'intro, c'est une Europe tuméfiée, mais c'est aussi les gens, mais ça peut être des choses plus légères aussi. Enfin, c'est...
Donc, est-ce que tu nous lirais
Je vais vous lire l'épisode 1.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Terreur saison 1, épisode 1. Des individus se levèrent de leur canapé, 2015. Des individus se levèrent de leur canapé Oraito série spéciale Conforama à 534 €, de leur clic-clac Agaloun de chez Ikea à 399 €, de leur canapé Swan d'Arne et Jacobsen à 9 934 € et lâchèrent au sol ce qu'ils tenaient en main. Ils sortirent rapidement de chez eux pour crever les pneus de leur voiture, des voitures de leurs voisins, d'autres voitures un peu au hasard, et partirent en chantant sans vraiment savoir où se rendre, sans objectif. Ils n'étaient que quelques centaines en Europe ce jour-là, de Braino à Dovia di Predappio et de Francfort à Castres. Ils n'étaient pas remarquables. Certains passèrent néanmoins dans les rubriques faits divers des médias, sans plus d'explications, le pétage de plomb n'étant pas en soi un sujet sur lequel beaucoup de forces intellectuelles avaient jamais été mobilisées. Des individus descendirent de leur Citroën C1, de leur Volkswagen Golf, de leur Porsche 911 Carrera 4 et se mirent à tabasser des gens avec leurs tout petits poings fragiles et jamais habitués à tuméfier, pilonner la chair d'un inconnu. Ils furent maîtrisés, incarcérés, sans plus d'explications, sans force intellectuelle mobilisée.
Quelques jours plus tard, des individus par centaines manquèrent leur train du soir, ne rentrèrent pas chez eux, furent recherchés, certains retrouvés, incarcérés sans plus d'explication, tuméfiés par la vie, par ce qu'ils ont vécu. Dans les jours qui suivirent, de jeunes individus achetèrent en masse de fausses identités sur le net, vautrés dans des canapés en chantant et sans objectif. Des individus empathiques jusqu'au bout de la nuit devinrent ces jours-là subitement infâmes, insultants et totalement arrivistes. Ils rigolaient à tue-tête, sans plus d'explication. Certains passèrent dans les rubriques faits divers des médias sans force intellectuelle. Des individus célibataires totalement isolés en race campagne se levèrent au milieu de la nuit pour se rassembler sur des places de petits villages voisins et entamèrent des discussions avec objectifs et visées. Ils ne rentrèrent pas chez eux, le phénomène intéressait les médias, il fallait se mobiliser, se lever du canapé, du net, prendre sa voiture et filer pour couvrir un sujet sur lequel le pétage de plomb n'était pas en soi une explication satisfaisante. Des individus dans toute l'Europe, de La Haye à Vilnius et de Sarajevo à Saint-Malo, se mirent en pause quelques minutes, quelques heures, souvent sur des canapés, sans vraiment savoir s'ils devaient s'inquiéter ou pas de cet état, de cette petite agonie éphémère. Leur entourage paniquait en pleine nuit, sans vraiment savoir s'ils feraient la une des faits divers. Des individus jusqu'à ce jour pas remarquables, pas arrivistes, se levèrent de leur canapé, lâchant boissons, chips et chaînes d'information continues pour partir en chantant en race campagne où ils croisèrent des journalistes mobilisés, leur Citroën C1, leur Volkswagen Golf et leur Porsche 911 Carrera 4 recouvertes de boue. Des individus et quelques décideurs entamèrent des conversations au milieu de petits villages isolés, tuméfiés par la vie moderne sans plus d'explications et jusqu'au bout de la nuit. Ils rentraient ensuite chez eux sans crever de pneus, sans chanter à tue-tête. Ils étaient vraiment bien là. Des individus, quelques jours plus tard, tentèrent de mobiliser les médias sur des faits divers, à peine remarquables. Il était question de fausses identités, de pneus crevés, de disparitions temporaires et inexplicables de personnes s'étant subitement levées de leur canapé Oraito série spéciale Conforama à 534 €, de leur clic-clac à Galoun de chez Ikea à 399 €, de leur canapé de Swan d'Arne Jacobsen à 9 934 €. Des individus commencèrent à remarquer que certains faits divers ne pouvaient être en soi de simples pétages de plomb et tentèrent de mobiliser d'autres individus vautrés dans leur canapé en les alertant sur des phénomènes, des attitudes et des vies modernes tuméfiées, mais sans succès. La vie moderne tuméfiée des individus n'étant pas en soi un sujet sur lequel beaucoup de forces intellectuelles avaient jamais été mobilisées. Dans toute l'Europe, des individus se levèrent de leur canapé, de leur Porsche 911 Carrera 4, de leur maison en race campagne et commencèrent à ne plus avoir envie de leur petite agonie éphémère et tuméfiée. Ils repoussèrent également toute envie de s'inquiéter, de stresser, de prendre des antidépresseurs et de se projeter dans des occupations ne nécessitant aucune force intellectuelle. Vraiment très peu de temps après, et ce partout en Europe, des décideurs lâchèrent leur iPad Air, leur stylo plume Legrand de Montblanc, leur discours managérial de motivation en cours et se rendirent dans le parc le plus proche pour profiter de l'air frais, de quelques rayons du soleil et entamer une pause non programmée. La tête tuméfiée par des décisions auxquelles ils ne croyaient plus, la tête bourrée d'antidépresseurs, ces décideurs restèrent plusieurs jours dans leur parc, ce qui généra faits divers, inquiétude des familles et attira de nombreux journalistes. D'autres décideurs optèrent quant à eux pour d'autres formules. Motivés, ils commencèrent à ne plus avoir envie de leur petite agonie éphémère et tuméfiée par une vie moderne sans force intellectuelle et sans plus d'explications. Des individus, déjà dans des parcs, aperçurent des décideurs en plein pétage de plomb, comme tuméfiés par la vie, et tentèrent d'entamer avec eux des discussions avec objectifs et visées. Des individus, habitués des parcs, commencèrent à alerter les médias sur ces individus en plein pétage de plomb, seuls ou en groupe, certains rigolaient même à tue-tête, vautrés sur des bancs publics. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux, ils voulaient profiter de l'air frais, de quelques rayons de soleil et entamer une pause non programmée. Le phénomène intéressait les médias, il fallait se mobiliser. Sur les chaînes d'information continue se multiplièrent les reportages sur des faits divers où l'on apprenait que de plus en plus d'individus généraient de nombreux faits divers. Des journalistes se levèrent de leur bureau Tana de chez Habitat à 650 €, de leur bureau Titan de chez Conforama à 79,20 €, de leur bureau USM Aller de chez Uber Moderne à 2 500 € et lâchèrent au sol mugs personnalisés, cigarettes électroniques et tablettes numériques. Ils sortirent rapidement de leur société pour se rendre au parking et crever les pneus de leur voiture, pour ne plus partir en reportage couvrir des faits divers sans explication, des pétages de plomb pas si remarquables, des sujets sur lesquels beaucoup de forces intellectuelles n'avaient pas à être mobilisées. Commença alors une plus longue période, sans faits divers concernant des individus ou des décideurs qui auraient pété les plombs, rigolé à tue-tête, entamé des pauses non programmées, seuls ou en groupe, et ce dans toute l'Europe, de Bratislava à Namur et de Hénin-Beaumont à Marbella.
Grand contrôle.
Grand contrôle.
Libre, libre,
libre et curieux.
Voilà, donc c'était Terreur saison 1. J'espère que cet extrait vous donne à... Vous met l'eau à la bouche, c'est un texte assez extraordinaire, je pense, qui est marquant. Et je vais utiliser un mot que je n'aime pas trop utiliser, mais qui est quand même très, très juste. Là, c'est jubilatoire, parce qu'il y a une façon de mobiliser les ressources de la langue qui est assez rare. Donc voilà, Eric Herlix sera encore quelques moments à Ground Control au Concept Store, donc au milieu de l'espace. N'hésitez pas, si votre humeur y correspond, à venir lui demander une dédicace et éventuellement une lecture d'un autre extrait. Ce sera avec joie. On vous retrouve non pas la semaine prochaine puisqu'il y a une émission spéciale sur l'horaire de Grande Flore Café, mais dans 15 jours avec le poète cure de Semouz Daktekin et les éditions du Castor Astral. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne soirée en musique avec les Black Keys.
Scream.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.